reçus au lendemain des terribles engagements que le 126e et le 326e de ligne avaient menés pour conquérir et occuper la côte 153, sise au Mont Moret. C'était une position qui dominait la Marne, un observatoire idéal situé non loin de Courdemange et de Blaye-sous-Arzillières, au sud de Vitry-le-François. Pour Jean et ses camarades du 326e, cette attaque n'était pas leur baptême du feu. Déjà depuis la fin août, tous savaient ce qu'était la terreur causée par l'arrivée d'une salve de 88 ou de 210. Tous connaissaient la peur, qui, d'instinct, vous jette à terre lorsque ronflent autour de vous comme des frelons fous les balles de mitrailleuse. Tous avaient aussi découvert cette panique qu'il fallait absolument dompter et maîtriser quand venait l'ordre de bondir, de se dresser et de foncer sur l'ennemi, de courir malgré le barda qui vous bat le dos et les reins. De même, tous, à un moment ou à un autre, avaient ressenti à quel point il était fou, dérisoire et inutile d'essayer de s'abriter à plat ventre derrière son sac. C'était pourtant la conduite à suivre lorsque toute progression devenait impossible et quand les officiers, souvent encore debout et après avoir commandé de se tapir dans les chaumes, réclamaient le soutien de l'artillerie. Tous, en ces instants, s'étaient alors jurés que plus jamais ils ne revivraient de telles expériences, de tels cauchemars, ces folies que tout le corps refusait souvent à sa façon en se rebellant en d'humiliants et incontrôlables relâchements. Tous, pourtant, sans rechigner, s'étaient relancés vers l'avant quand les ordres étaient venus, et ils avaient couru vers les lignes allemandes, et tiré, et tué, et couru encore, et toujours, malgré les cris des camarades qui chutaient alentour en appelant leur mère ou leur femme, ou qui mouraient sans un mot, sans comprendre. Alors, quand il avait fallu monter à l'assaut du mont Moret et de cette côte 153, situation que les Allemands voulaient eux aussi tenir, ce n'étaient plus des néophytes qui avaient manœuvré, mais des hommes déjà baptisés à la poudre. Des fantassins qui savaient que souvent, dans les corps à corps, les coups de crosse en pleine figure étaient plus vite donnés et tout aussi efficaces que les coups de baïonnette. Mais au Mont Moret, cette connaissance du combat et cette hargne démente qui lui est nécessaire pour être efficace n'avaient pas empêché le carnage. Au soir du 9 septembre, et une fois la position conquise et gardée, les pertes du régiment s'élevaient à plus de 550 hommes tués ou blessés. Après de telles épreuves, bienvenues et réconfortantes étaient les lettres attendues et dont on pouvait parfois partager les informations. Car Jean n'était pas le seul à se ronger de soucis pour sa famille et pour sa femme. Édouard, par exemple, qui n'avait pas eu la chance de recevoir de récentes nouvelles de Francette, ses lettres avaient dû se perdre, avait été ainsi ému aux larmes lorsque Jean lui avait appris que chez lui, grâce à Marthe, les moissons étaient à l'abri. « Je vous revaudrai ça à tous les deux, promis !» avait dit Édouard en se détournant, car soudain gêné de se sentir aussi vulnérable, près de pleurer. « Parole, dès cette putain de guerre finie et de retour chez nous, Marthe et toi pourraient me demander la lune. J'irai l'accueillir. Surtout pour Marthe d'ailleurs. Tu veux que je te dise ?» avait-il ajouté en retrouvant son sang-froid. « Ta Marthe, tu ne la mérites pas. C'est vrai ça, c'est pas toi, mais elle qui m'a remplacé au moisson. » « Oh, tu sais, s'il n'en tenait qu'à moi, je suis tout de suite prêt à te remplacer là-bas, même auprès de Francette. Enfin, dans quelque temps, quand elle sera redevenue un peu plus plate, » avait plaisanté Jean. Puis, plus sérieux, il avait ajouté « Marthe me dit aussi qu'elle va très bien, ta Francette. Dame, elle peine un peu à avancer et à se baisser, mais ça tu l'as bien voulu. Tu es quand même un fiefé goujat. Ça ne te suffisait pas, tes quatre petites ? Il faut toujours que tu frétilles, toi. » Oui, les filles sont mignonnes, mais je veux un fils. Et cette fois, c'est la bonne. D'après la mère Goulmy, la coucheuse, on l'a fait juste à la bonne lune, ce petit. Et en plus, Francette ne le porte pas comme les autres. Et puis dis, ça te va bien de me traiter de goujat et de toujours frétiller. Ose dire que tu ne touches plus à ta Marthe depuis que tu as tes deux gamins. Ton choix du roi, hein ?
Ben oui. « Mais j'ai la technique, moi, monsieur. Il y a beau temps que Marthe et moi savons qu'un solide labour n'appelle pas toujours la semence, mais peut préparer une bonne jachère. Et nous deux, on aime beaucoup cette sorte de jachère. Sans blague. Et pour quand au juste ton héritier ?»«
Dans un mois à peu près. Tu sais comment ça marche.
On sème quand on peut et on récolte quand le temps le veut. Ah, oh, bon Dieu, pourvu qu'on ait fini d'ici là. Dis, tu crois qu'on sera de retour chez nous le mois prochain? Que je serai là-bas pour la naissance? Tu crois?
Je n'en sais pas plus que toi, mais d'après Edmond, notre curé, ça risque d'être plus long que prévu.
Edmond Fraisse, dès son incorporation dans le 326e de ligne, avait fait valoir, sans toutefois refuser de porter un fusil, que son état de prêtre était peu compatible avec les tueries. Il avait donc été affecté à l'infirmerie, comme beaucoup de ses confrères.
Et qu'est-ce qu'il en sait, lui, que ce sera plus long? Il tient ça directement de son patron, du bon Dieu?
Non, du médecin-major, avait expliqué Jean. Tu sais bien, les officiers, ils se renseignent entre eux. Ils ont des informations qu'on n'est pas prêt d'avoir, nous, les deuxièmes classes. Voilà, c'est tout. D'après ce qu'il a entendu dire, Edmond pense que ça va traîner au moins 3 mois encore. Ça nous porte à la Noël.
Bon Dieu, déconne pas. Mon gamin aura presque des dents quand je le verrai.
N'exagère pas. Et puis au moins d'ici là, on aura peut-être eu le temps de se décrasser.
Parce que si tu arrives chez toi avec la tête que tu as, tu lui feras tellement peur à ce petit qu'il voudra revenir d'où il sera sorti.
Tu me diras, c'est un bon coin.
Et ta gueule, tu l'as vu? Même ta Marthe, toute courageuse qu'elle soit, ne voudrait pas de toi dans son lit.
Avait lancé Édouard en cognant amicalement l'épaule de Jean de son poing fermé.
Ça, il faut bien dire, avait reconnu Jean en se passant la main sur les joues.
Emporté depuis plus d'un mois dans une sorte de maelstrom épuisant, fait d'avance et de recul, de marches forcées et de combats, de bivouacs établis à la hâte dans les villages en ruine, les hommes étaient sales, barbus, puants. Et déjà leurs pantalons garants étaient couleur de terre. Aussi, tous attendaient le jour où, enfin au repos, un peu à l'arrière, ils pourraient se laver.
« Alors comme ça, tu dis que Marthe est venue moissonner chez nous? C'est bien, c'est très bien. »
avait dit Édouard en redevenant soudain grave.
« Oui, c'est normal, non? Français t'aurait fait de même. »
« Sans doute, mais dis, les moissons c'est bien, mais comment elles vont faire pour battre, hein? La batteuse, il lui faut des hommes, alors ?»«
Je ne sais pas, » avait soupiré Jean qui s'était déjà posé la question.
« Mais tu vois, je crois qu'elles se débrouilleront. Elles sont capables de tout. Quelquefois je pense qu'elles sont plus fortes que nous, oui, plus fortes. » Plus volontaire. La preuve, Marthe m'a écrit qu'elle fait maintenant le pain pour chez nous. Tu te rends compte? Tu sais la force que ça demande de pétrir 30 kilos de farine? Ah oui, ça non plus, ce n'est pas un travail de mauviette.
Mais c'est pas tout. Marthe me dit aussi qu'à Cressensac, la femme de Pierre Treille, oui, le boucher qui me prend souvent mes agneaux, eh bien, sa femme est à son étal tous les jours. Pour abattre, elle se fait juste aider par son beau-père, le vieux Léon. Et après, elle se débrouille. Seul. Alors tu vois, pour les battages, nos femmes trouveront la combine. Enfin, j'espère.
Et elles l'ont trouvée pour tout et en tout, pensa Jean, dont l'attention fut soudainement attirée par un son étrange, une sorte de mélopée étouffée et syncopée.
Alors, il comprit et quitta son poste pour rejoindre son voisin de la classe 18. Le jeune était là, accroupi, dans une sorte de niche creusée dans la glaise, un trou infâme, tout suintant d'eau.
« Vas-y, petit, chiale si ça te fait du bien, » murmura Jean en lui posant la main sur l'épaule.
« Et surtout, n'aie pas honte, on l'a tous fait un jour ou l'autre. Ça ne se voit pas toujours, ça ne s'entend pas non plus, parce que beaucoup chialent sans larmes, en dedans, dans leur tête, quoi, et que c'est peut-être le pire. Alors n'aie pas honte. »
Je m'en fous de la honte, pas de la peur. J'ai peur, nom de Dieu, et j'en crève,
dit le jeune en essayant de se relever, de s'extraire de la gangue de boue dans laquelle, épuisé, vaincu par la terreur, il s'était caché.
Donne-moi la main, dit Jean. Là, voilà. Tiens, mets-toi là. C'est un peu moins boueux. Ça va mieux?
Ça va, à deux, ça va. Tu me laisses pas, dis, hein.
Bois un coup, lui proposa Jean en lui tendant son bidon. Il était aux trois quarts plein d'une mauvaise eau-de-vie, un redoutable et acide torboyau dont il n'usait que rarement quand le froid devenait insoutenable.
Mais va doucement quand même, hein. Moi, elle me fout l'estomac en l'air, cette saloperie,
ajouta-t-il en comprenant que le jeune tétait à pleine bouche.
Alors, ça va mieux?
demanda-t-il quand l'autre